À Bordeaux comme à Paris, il est 9h10, l'heure de retrouver Juan Gomez.
Avec les auditeurs d'RFI, évidemment. Merci Nathanaël Vitran. Dans 30 secondes, RFI vous donne la parole. À tout de suite.
Radio G. www.radio-g.fr.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix. Notre émission a plusieurs voix qui donnent à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impair sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Aujourd'hui, c'est la première émission de 2022 et on voit la vie en vert. Vert d'eau, vert bouteille ou vert de rage. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Valérie, Anne et Pascal. On commence avec le vert de Babar.
Ce qui faisait ma joie dans les albums des Brunoff, c'était les couleurs, franches, vives, posées en aplats et enfermées dans des lignes de contours au tracé net et clair. Parmi ces couleurs, celle des vêtements du roi des éléphants tranchait sur toutes les autres. Babar était presque toujours vêtu d'un costume vert, d'une chemise blanche et d'un nœud papillon rouge. Seules les cérémonies officielles le montraient habillé autrement. Le vert de ce costume, que je n'avais plus dans l'œil et que j'ai retrouvé avec un plaisir vaguement proustien, n'est pas un vert ordinaire. C'est un vert tendre et sage, une sorte de vert de printemps, parfaitement uni et ne tirant ni sur le jaune ni sur le bleu. Il distingue notre héros de tous les autres personnages. Lui seul est vêtu de vert et contribue fortement à égayer ses aventures. Cette coloration babarisante m'a toujours enchantée et a sans doute contribué dès ma petite enfance à faire du vert ma couleur préférée. Plus tard, devenu historien des couleurs et ayant souvent rencontré dans des textes vernaculaires de la fin du Moyen-Âge la jolie expression « vert gai » s'opposant à « vert perdu », c'est-à-dire triste et désaturé, je me suis parfois demandé si la traduction la plus précise de cette expression incertaine et controversée ne serait pas tout simplement vert babar. L'un des traits particuliers des albums de Babar par rapport à la plupart des livres pour enfants des années 1950 me semble être l'absence de toute vulgarité, c'est-à-dire de toute concession au goût et au mode trop facile du moment. Notamment dans le choix des couleurs, dans les albums de Jean et Laurent de Brunoff, celle-ci joue un rôle forcément déictique. Ce sont des attributs récurrents d'une histoire à l'autre. Tous les éléphants sont gris, mais chacun porte un vêtement de couleurs différentes. Robe rouge pour Céleste, veste noire et pantalon rouge pour Cornelius, costume marin rouge et blanc pour Arthur, habit bleu ou rose pour Pomme, Flore et Alexandre, et bien sûr, costume vert, chemise blanche et couronne jaune pour Babar. Cette sympathique palette, malheureusement, n'a duré qu'un temps. Dans les albums plus récents, ceux qui ont été publiés dans les années 60, ainsi que dans les dessins animés réalisés plus tard pour la télévision, on observe de nombreuses variantes de détails. De nouvelles colorisations. Arthur est doté d'un costume bleu, Zéphyr d'une chemise rouge, Céleste porte des robes de toutes les couleurs, la vieille dame a quitté sa robe noire pour une tenue affreuse violette, et surtout, Babar, roi des éléphants, est désormais beaucoup moins fidèle qu'auparavant à son célèbre et magnifique costume vert.
Certaines semaines, elle s'imposait ce qu'elle appelait le régime chromatique. se limitant à des aliments d'une seule couleur par jour. Orange le lundi, carotte, melon, crevette bouillie, rouge le mardi, tomate, grenade, steak tartare, blanc le mercredi, turbo, pommes de terre, fromage frais, vert le jeudi, concombre, brocoli, épinards, et ainsi de suite, jusqu'au dernier repas du dimanche inclus. C'est de cet extrait de Léviathan, de la page 85 exactement, du Léviathan de Paul Auster, que va s'inspirer Sophie Calle pour construire son propre régime chromatique. Pour faire comme Maria, durant la semaine du 8 au 14 décembre 1997, j'ai mangé orange le lundi, rouge le mardi, blanc le mercredi et vert le jeudi. Paul Auster ayant laissé quartier libre à son personnage les autres jours, j'attribue au vendredi la couleur jaune et au samedi le rose. Quant au dimanche, je choisis de le destiner à l'éventail des couleurs, mettant à la disposition de 6 invités l'ensemble des menus testés durant la semaine. Et voici ce que Sophie Calle mange le jeudi, le jour du vert. Jeudi, vert. Menu imposé, concombre, brocoli, épinard. Menu que je complète ainsi. Pâte verte au basilic, salade de kiwi et de raisin, menthe à l'eau.
Après un premier extrait de Michel Pastoureau dans « Une couleur ne vient jamais seule », Pascal a lu « Le régime chromatique de Sophie Calle ». Elle est artiste, plasticienne, photographe, mais aussi réalisatrice et écrivaine. Sophie Calle, en 1997, décide de manger chaque jour un menu composé d'une seule et même couleur et elle prend ses repas en photo. 6 jours, 6 couleurs. Poursuivons avec Colorama, un imagier des nuances de couleurs.
Vert kiwi. Partons pour la Nouvelle-Zélande, à la découverte du kiwi. Le kiwi ? Eh oui ! Ce terme désigne à la fois un fruit et un animal. Ce n'est pas une coïncidence. Un fruit baie à la chair verte et sucrée porte un nom d'origine maori. Ce sont les Néo-Zélandais qui l'ont baptisé ainsi, car sa peau velue leur rappelait le curieux plumage gris-brun de l'oiseau emblématique de leur pays.
Vert de rage. Pourquoi dit-on vert de rage ? Le thème colère vient du latin cholera, qui signifie excès de bile. La bile est un liquide verdâtre, sécrété par notre vésicule biliaire, qui colorerait notre teint sous l'effet de la colère. Cela explique pourquoi Hulk, célèbre personnage de comics américain, se transforme à la moindre contrariété en une terrible créature à la force titanesque et au teint verdâtre.
Chlorophylle. La chlorophylle est le principal pigment responsable de la couleur verte de nombreux végétaux. Mais elle permet aussi aux plantes de pousser. Elle utilise la lumière du soleil comme énergie et la transforme. C'est la photosynthèse. En échange, arbres et plantes rejettent de l'oxygène indispensable à notre survie, d'où l'idée de baptiser les grandes forêts les poumons verts de la planète.
Vert British. Comme pour le rouge Ferrari, le vert de course ou British Racing Green puise ses origines dans l'histoire des circuits automobiles. Au début du XXe siècle, chaque pays adopte une couleur afin de se différencier sur les pistes. Bleu pour la France, blanc pour l'Allemagne, rouge pour l'Italie. Et c'est avec la couleur vert foncé et plusieurs victoires retentissantes que les Anglais imposent un vert so British.
Arsenic. Au début du XXe siècle, de nombreux rats infestaient les rues de Paris. Afin de les exterminer, on mit au point un poison à base d'arsenic, le vert de Paris. Cette poudre terriblement toxique était aussi employée comme pigment par les peintres de l'époque, et ce, malgré les risques encourus. Ainsi, Cézanne, Monet ou encore Van Gogh s'empoisonnaient à petit feu en réalisant leurs peintures aux couleurs chatoyantes.
Céladon. Nuance délicate de vert et de bleu, cette couleur est appréciée en Asie parce qu'elle rappelle le jade, une pierre sacrée. Mais le céladon désigne avant tout des œuvres céramiques issues d'un procédé chimique que perfectionnèrent durant des siècles les artisans coréens. Il s'agit d'un émail coloré recouvrant des pièces de terre cuite à plus de 1200 degrés. Cette nuance est obtenue par l'addition d'une subtile quantité d'oxyde de fer.
Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, y a du sang et y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Bluff que tu mentes, autour des diabolos mentes, quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne.
Un verre magnifique. Cet après-midi, vers 17h, à la très bucolique buvette du Jardin du Luxembourg, un lieu où je tiens mes habitudes depuis longtemps, j'ai bu un diabolomante, ce qui ne m'est pas arrivé depuis plusieurs années. Cette boisson, passablement sucrée, m'est en effet interdite à cause de mon diabète. Toutefois, sans trop de mauvaise conscience, j'ai transgressé l'interdit et j'en ai retiré un plaisir immense, tout à la fois rafraîchissant, gustatif, nostalgique et chromatique. J'aime la menthe, dans tous ses emplois et sous tous ses parfums. Rien d'étonnant à cela puisque je suis médiéviste et que les sociétés médiévales usent et abusent de cette plante aromatique qui pousse si facilement sur de nombreux terroirs. Elles l'utilisent en cuisine, en médecine, en cosmétique, mais elles l'emploient aussi pour parfumer des étoffes, des vêtements, des objets et même des lieux. À l'époque féodale, la grande salle du donjon ou celle de la maison forte du seigneur sont souvent jonchées de menthe fraîche, renouvelées régulièrement et parfois associées à d'autres plantes odoriférantes. Le XIIe siècle est propre et sans la menthe. Ce n'est pas le cas du XVIIe, le si mal nommé grand siècle, qui dégage en permanence des odeurs nauséabondes. Non seulement il est d'usage de jeter ses ordures à peu près n'importe où, de déféquer derrière les portes, les meubles ou les tentures, de laisser pourrir les cadavres d'animaux, notamment de chevaux, mais surtout plus personne ne se lave au quotidien, les médecins ayant décrété qu'appliquer trop souvent de l'eau sur la peau était nuisible à la santé. S'il est un siècle qui ne sent pas la menthe, c'est bien le XVIIe. Dans le cas du diabolomante, ce qui me ravit n'est pas tant le goût délicieux du breuvage, ni la provocation infantile du patient qui transgresse son régime, mais la splendide couleur verte contenue dans le verre. Pour l'obtenir, ce dernier doit être de grande taille et la proportion entre le sirop et la limonade parfaitement dosée. Un dixième de sirop suffit pour obtenir une teinte magnifique, semblable à celle des plus belles émeraudes. Un neuvième ou un huitième est parfois plus spectaculaire encore, tout dépend de la marque du sirop et de celle de la limonade. on peut faire du reste varier la teinte en ajoutant des glaçons. Le liquide perd alors un peu de sa monochromie, mais gagne en camailleux et semble dessiner des arabesques faisant varier la palette du mélange en tonalité, en valeur et en saturation. Par là même, le simple consommateur d'une modeste boisson rafraîchissante devient un coloriste de grand talent. L'honnêteté oblige à préciser que le résultat n'est pas le même si on remplace la limonade par de l'eau, même de l'eau minérale de qualité. Jamais une menthe à l'eau ne donnera une palette de verre aussi séduisante qu'un diabolomante. Pourquoi ? Féerie de la limonade, boisson magique entre toutes, effervescence des bulles qui remplissent dans le verre la même fonction chimique que les liants en peinture. Rôle du sucre, semblable à celui de l'alcool qui modifie les couleurs, quelle qu'en soit l'origine, ou bien, comme je le pense, rôle émotionnel du jardin du Luxembourg, mon jardin d'Éden à moi, lieu ineffable de souvenirs, d'attentes, d'amour et de rêves.
Le vendredi n'est pas propice à la concentration. C'est un peu de la légèreté des grandes vacances retrouvées chaque semaine. Une journée volatile comme du gaz et régressive comme de la purée maison. Difficile de travailler un vendredi, même plongé dans mon manuscrit. Si seulement je trouvais une traduction satisfaisante pour le titre du roman. Waiting for the day to come. Heureusement, le vendredi me porte bonheur grâce à sa couleur, le vert. Ce n'est pas qu'une superstition, il y a des faits qui ne trompent pas. Dès que j'en ai eu vraiment besoin, j'ai cherché du vert autour de moi, dans un objet à proximité ou dans un paysage. Si j'en trouvais, je savais que l'issue me serait favorable. Le jour où j'ai accouché de mon fils, j'étais terrifiée. Mon mari m'a rejointe à l'hôpital, il portait son t-shirt vert. L'accouchement s'est très bien passé. Le jour où nous avons visité pour la première fois cette maison qui deviendrait la nôtre, les volets verts m'ont confirmé que nous faisions le bon choix. Le jour où nous avions rendez-vous pour signer l'achat de notre maison, la porte verte du notaire, à laquelle je n'avais fait attention qu'en partant, aurait dû me rassurer sur le fait que mon mari était déjà à l'intérieur. Si j'ai vécu une enfance aussi heureuse, je suis persuadée que c'est en partie grâce aux yeux verts de ma mère. Mais le vert peut parfois se réveiller à moi de manière détournée. Le soir où j'ai rencontré mes maris, le groupe anglais qui jouait s'appelait The Green Peas. Mon regard se perd par la fenêtre, sur la pelouse verdie par la rosée, sur les feuilles agitées par le vent, ce vert omniprésent qui me porte chance plus qu'aucune autre couleur. Et si l'explication venait de la physique ? Après quelques recherches sur Internet, je découvre que son spectre chromatique correspond à la longueur d'onde 525. Évidemment, j'ai grandi au 52 de la rue Victor Bache et je suis née dans le Doubs, le département 25.525. Les meilleures explications sont les plus rationnelles. J'ai toujours vu les jours en couleur. C'est même ainsi que je me repère dans le temps. Lorsque je prends rendez-vous quelque part, j'ai rarement besoin de le noter. Mon emploi du temps apparaît devant mes yeux sous forme d'une frise colorée. Quand j'étais petite, je pensais que c'était pour tout le monde pareil. Je me figurais que les nuances de couleurs étaient peut-être différentes selon les gens, mais que chacun possédait son propre arc-en-ciel mental. C'est à l'école primaire que j'ai découvert, assez douloureusement d'ailleurs, que ce n'était pas le cas. J'avais dit jaune au lieu de jeudi, pour demander quand on aurait lieu la sortie scolaire que j'attendais avec impatience. La maîtresse a ri de mon lapsus, et quand elle m'a corrigé, j'ai tenté d'expliquer que de toute façon, c'était la même chose, persuadée qu'il était évident pour tous que le lundi était jaune. Rire entre les rangs et humiliation de la part de la maîtresse qui expliqua devant toute la classe que confondre les couleurs et les jours de la semaine à 7 ans, c'était très grave. Est-ce que j'avais envie de retourner avec mes petits camarades de maternelle ? Prenant ma remarque pour de l'insolence, elle m'avait réprimandée en conséquence. Pendant des semaines, on n'a pas manqué de me traiter de sorcière et de menteuse, de dire que j'étais bizarre. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que cette perception colorée du temps influençait aussi ma perception visuelle. J'ai mis longtemps à me le formuler clairement, même si certains indices auraient dû me mettre sur la voie. La teinte d'un rouge à lèvres allait me sembler gourmande et sensuelle un jeudi soir, mais fade et sans saveur un dimanche matin. Il y a certaines robes que je ne porte que le mercredi, d'autres seulement le vendredi. Le mardi, le jour du noir, je suis plus sensible aux ombres et aux clairs obscurs. J'ai l'impression de vivre dans un tableau de Caravage et je me suis déjà sérieusement demandé si le peintre italien n'avait peint ses toiles que le mardi. Et puis il y a eu cette exposition consacrée au peintre David Hockney il y a 10 ans. Émerveillée, j'ai tenu à y retourner le lendemain. Mais les tableaux me sont apparus très différents de ceux que j'avais découverts la veille. Ils me plaisaient beaucoup, mais quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas tellement en croire mes yeux que je suis allée demander à l'accueil s'ils avaient changé l'éclairage pendant la nuit. C'est ce jour-là que j'ai compris. Aujourd'hui, je sais que le lundi, les objets bleus apparaissent avec plus d'intensité dans mon champ de vision et que le mercredi, c'est l'orange. Mardi, j'ai longtemps cherché mon carnet jaune, celui contenant le vocabulaire scientifique pour mes traductions, incapable de remettre la main dessus. Jeudi, j'ai retrouvé le carnet sur le meuble de l'entrée. Sans surprise, j'ai dû attendre le jeudi pour voir apparaître cet objet jaune. C'est comme si chaque jour de la semaine plaçait un filtre devant mes yeux, une caméra avec un grain bien à elle ou une pellicule avec une certaine sensibilité à la lumière. Chaque matin, c'est tout mon paysage qui change légèrement de ton.
Nous avons entendu la chanson-titre « Diabolomante » composée et interprétée par Yves Simon en 1977, qui aura écrit les paroles et la musique en 2 heures seulement et qui connaîtra un grand succès après la sortie du film. L'extrait du roman que vient de lire Pascal, « Mon mari » de Maud Ventura, est lui tout récent, paru en 2021 chez l'Iconoclaste. Anne enchaîne maintenant avec un article qui traite des valeurs chromatiques de la couleur verte dans l'architecture.
Si l'on en croit les scientifiques, nos yeux n'ont besoin d'opérer aucun ajustement lorsqu'ils perçoivent la couleur verte. Cela s'explique par le fait que le vert se trouve au centre du spectre des couleurs. Ce sont les propriétés rassurantes et apaisantes du vert qui trouvent un écho auprès d'un si grand nombre de personnes. Dans le Coran, le paradis est écrit comme un lieu de printemps éternel et de bonheur perpétuel. Un monde dans lequel les individus portent des bracelets en or et des vêtements de couleur verte, conçus dans la plus noble des soies et le plus raffiné des brocarts. Dans la même lignée, la Bible se réfère au vert comme étant la couleur de l'immoralité, un symbole de résurrection et de printemps. À l'époque antique, les Romains exprimaient un véritable respect envers la couleur verte, symbole de Vénus, déesse des jardins et des vignes. Lorsque l'on observe la roue des couleurs, le vert se situe diamétralement opposé au rouge et dégage un équilibre naturel, réconciliant les teintes chaudes avec les teintes froides. On ne peut pas aborder la philosophie de la couleur sans parler de l'impact produit par l'aspect lumineux ou sombre d'une couleur, chaque fois qu'une dominante ou l'autre apparaît clairement. Par exemple, si deux verres sont apposés côte à côte et que tous deux présentent le même équilibre entre ombre et lumière, alors ils auront le même poids sur le plan visuel, à savoir un effet souvent plat et inintéressant. On ne crée une valeur visuelle qu'en jouant sur un large spectre d'intensité ombre-lumière à travers les couleurs choisies. Chaque couleur s'accompagne de connotations négatives. Pour le vert, il s'agit des idées de maladie, de poison ou de déchéance, notamment dans le cas de verres plus ternes, comme le vert olive. S'entourer de teintes de vert tendant vers le brun peut être un signe de trait de personnalité problématique. Dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, on associe le vert à la mort, alors que l'on trouve cette même couleur sur de nombreux drapeaux africains. Ici, il est le signe d'une nature abondante et représente la terre-mère qui se déploie dans toute sa beauté sur le continent. De manière générale, la couleur verte connaît depuis quelques années une véritable renaissance, notamment à travers la popularité des mouvements écologistes et des appels au recyclage. Il se dégage une impression de cure de jouvence, c'est l'énergie dans ce qu'elle a de plus entier, un contact direct avec une source de vie nouvelle, une sorte de médicament en soi que nous offre la nature.
On poursuit avec 2 extraits d'autoportraits en vert de Marianne Dye et c'est une spéciale dédicace à Adèle qui se reconnaîtra, c'est sûr.
Comme je la voyais chaque jour devant sa maison, il m'a été longtemps impossible de distinguer entre cette présence verte et son environnement. Je passais devant chez elle, au volant de ma voiture, en conduisant les enfants à l'école, puis de nouveau, cette fois seule, en revenant de l'école, et puis encore 2 fois le soir, en retournant chercher les enfants et en les ramenant à la maison. Et je jetais un coup d'œil involontaire vers le perron et le jardin désertique de cet ancien corps de ferme, et mon regard tombait à chaque fois sur une forme incertaine qui aussitôt après se confondait dans ma mémoire avec l'arbre unique de l'enclos, un haut et large bananier. Je passais donc devant chez elle 4 fois par jour et je la regardais et ne la voyais pas. Et cependant, une obscure insatisfaction m'obligeait à tourner la tête de ce côté. Pourtant, je ne remarquais rien, jamais, jamais qu'un beau bananier insolite. Je freinais devant cette maison, je roulais presque au ralenti et pas une seule fois mes yeux n'ont manqué de se poser sur la silhouette immobile aux aguets de la femme en vert, debout près du bananier, largement plus imposant qu'elle, et cela je le sais sans doute possible, car j'avais 4 fois par jour le cœur étreint par quelque chose d'innommable, quoique pas absolument mauvais, dès que j'avais dépassé la ferme au bananier solitaire dans sa cour grillagée. Il y avait encore après, sur la route de l'école, dans toutes sortes de jardins, de nombreux bananiers sur lesquels mon regard se portait avec la plus grande indifférence. Un matin, je m'arrête devant cette maison. Je coupe le moteur, je tire le frein à main, puis je me tourne vers mes 4 enfants, 3 assis à l'arrière et l'aîné devant, à mon côté. « Regardez bien ce bananier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose auprès de ce bananier ?» Ils étaient vaguement déçus. « Il n'y a rien du tout auprès de ce bananier » ont-ils chuchoté. « Sûr ? » ai-je demandé. Un frisson m'a parcouru le dos. « Sûr ! » ont dit mes enfants avec une certitude limpide. Et puisque mes enfants ne s'amusent jamais à me tromper, comment pouvais-je ne pas les croire ? Mais comment, aussi bien, pouvais-je leur répondre que je venais de voir, moi, pour la première fois, de discerner, tout auprès du bananier, une femme en vert ? Comment pouvais-je leur dire qu'il me paraissait improbable qu'ils ne voient pas aussi distinctement que je la voyais maintenant cette femme en vert qui pourtant, je le savais, jusqu'à ce matin, avait échappé à, non à mon regard, mais à ma conscience. Je me dis alors, la femme en vert a toujours été là. Chaque matin et chaque après-midi, elle est là, postée sous le bananier, et elle nous regarde passer au ralenti devant chez elle. Elle me voit qui la regarde sans la voir. Ce que je ne sais pas, est-ce qu'elle m'attend ? Éprouve-t-elle un certain dépit, une certaine peur à n'être pas repérée, ou est-ce qu'elle souhaite ? Je comprends que mes enfants n'en sont encore qu'à la première étape du phénomène, là où je stagnais moi-même avant ce matin de printemps radieux, où pour la première fois il m'a été permis de voir une femme en vert, dans son jardin sans grâce, jardin qu'elle semble occuper momentanément, par commodité, et dont elle n'est sans doute pas responsable de la tristesse de son aspect ravagé. La femme en vert est là, chaque jour. Est-elle encore là quand moi je n'y suis plus ? Sur ce point, je ne peux évidemment interroger mes enfants. Ou peut-être que si ? Toutes les jeunes femmes étaient en short par ce matin éblouissant. Ayant quitté la mairie, je marchais à grandes enjambées dans mon short kaki, d'inspiration militaire, parfaitement satisfaite d'être qui j'étais dans ce lieu-là, grand rue d'un bourg monotone, et à ce moment-là, et ce consentement s'auréolait d'une vague surprise née de l'existence même d'une telle plénitude, de la vraisemblance d'un réel plaisir. C'est alors que je tombe sur Christina, mais dès l'instant où je la vois, je ne sais plus si c'est elle, ou si c'est Marie-Gabrielle, ou si c'est Allison, non pas que m'échappe son prénom exact. Entre ces 3 femmes, je ne sais simplement plus qui est celle-ci. Au fond de ma poche, je presse et déchire entre mes doigts les petites feuilles de seringa. Celle qui est peut-être Christina est une jeune femme. Aussi, elle est en short, élastique et moulant, imprimée de fleurs vertes sur fond vert. Un peu de ma jubilation se dérobe. Je pense à me méfier. Pourtant, l'idée m'est agréable que je vais repasser tout à l'heure devant la maison de la femme en vert et que celle-ci sera là, sachant que je vais m'arrêter. Mais le short de Christina, c'est autre chose, car je ne l'ai pas prévu et que, n'est-ce pas, le vert n'est pas la couleur habituelle des shorts de femmes au premier jour du printemps. Christina garde ses 2 mains en arrière, posées à plat sur son fessier puissant. Elle veut ainsi offrir à la vue, tout spécialement, l'extravagante couleur de son short.
J'ai entendu ta voix dans la radio. Et
Merci pour votre écoute. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours. Aurons-nous encore la main verte ? La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite, à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.
Phone, perfect time, man.
I know I'm not right, but I'm not wrong. No, I'm not wrong.
Girl, you hate it when I'm too high, but that's where I belong. Where I belong.
Lane with me, pop with me, get high with me. If you rock with me, smoke with me, drink with me. Fucked up liver with some bad chemists. Lane with me. Some bad chemist.
Eyes red, no Visine. Crash the Mustang, no saline. Yeah, I love peace, yeah, I love lean. I laugh when they ask if my piss clean. Smoke with me, pop with me. Gucci store, come and shop with me. If I overdose, bear, you gon' drop with me.
I don't even wanna think about it right now. Let's get too high, reach a new high. The shrooms and the pills at the same time. Went to Hollywood, thrills from the street life. Took too many drugs, now I don't feel right. Lane with me, pop with me. Get high with me if you rock with me. Smoke with me, drink with me. Fucked up liver with some bad kidneys. Lane with me, pop with me. Get high with me if you rock with me. Smoke with me, drink with me. Fucked up liver with some bad kidneys.
Thank you. D'expression, peine de mort, réfugiés et migrants, discrimination, conflits armés. Que ce soit au bout du monde ou tout en bas de chez nous, des droits humains sont bafoués. Alors venez vous informer et écouter Droit Devant, une émission préparée par les groupes angevins d'Amnesty International. Droit Devant, un jeudi sur deux à 19h sur Radio G 101.5.
silence de ce matin, ou dans l'heure de l'aurore, on se redit, mais si c'était le dernier jour de ma vie.
When did all my words go?
Mary J, I got this taste of grey. Black on track, white other way. What to say? Struck down by your ray. Sunspot just burned out my blue. I saw an angel and I don't believe in heaven. I saw the devil too on another revel. But on me sees you dripping high level. I don't feel sorry, don't feel ashamed. Don't feel like someone to blame. Was I fixed? Eye to eye, could not look away. Cause you made the music sound so better. Say Mary J, I got this face that great. Black on track, white other way, what to say? Struck down by your ray. Sunspot just burned out my play. Mary J, I got this taste of grey. Black on track, white other way, what to say? Struck down by your ray.
Sunspot just burned out my blue. Took pit, smile at the shot. I'm stinking sweat, saying sorry, it's so hot. All around your friends, charms out of you. You sharp like needle blur, people coming through. Unplugged the gear, and now I drive back thinking I saw this angel dancing with a rat. Clearly see his book face in the frame. A 4-day wait till I see your name, Mary J. I got this taste of grey. Black on track, white other way. What to say? Struck down by your ray. Sunspot just burned out my play, Mary J. You left a taste of grey. Black on the track and white some other way. What to say? Struck down by your ray. Sunspot just burned out my play.
Praise the Lord, oh, praise the Lord, oh, yeah, praise the Lord upon you. must get closer to the essence of life. But be aware that it takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky. So meditate.